Vous écoutez
RMC. RMC. Jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
11h05, de retour dans les grandes gueules du sport. Encore une heure à passer en notre compagnie sur RMC en direct. David Douillet, Sarah Pitkowski, Fred Veil, c'est Simon Dutin. Merci de nous écouter, ils sont en pleine forme, vous avez raison. Et si vous avez raté le début, on vous comprend. Peut-être une petite grasse mat en ce dimanche. Vous pouvez retrouver le podcast des grandes gueules.
Mais ils vont peut-être aller voter, ils vont rattraper ça après.
Potentiellement, oui. Voilà. Donc il y a le podcast. Voilà, dès maintenant, vous pouvez aller écouter notamment notre débat excellent sur Kylian Mbappé, où Simon s'est très très bien défendu face à la meute. Mbappé est-il un frein pour les Bleus? Vous pouvez réécouter tout ça dans 30 minutes.
Alors, on recommence.
L'équipe de France, oui, encore au programme. Et son jeu minimaliste. Vous retenez quoi, vous? La solidité et l'inefficacité.
J'aime bien le jeu minimaliste.
Oui.
Ouais.
Bah, je sais pas, c'est un peu minimaliste, non?
Ah ouais, c'est minimaliste, mais ça peut être positif, minimaliste.
Ah ouais?
Ouais.
Pas souvent quand même, Sarah, quand même. En général, minimaliste, c'est réduit à son strict minimum.
Bon, on en reparlera.
Oui, mais ça peut être efficace.
Dans 30 minutes. Ah oui, si c'est efficace, tant mieux. Et puis, je vous le rappelle aussi, bien sûr, on vous offre un super cadeau dans les grandes gueules du sport. Vos places pour la finale de l'Euro 2024 et pour vivre l'expérience RMC, c'est-à-dire le voyage à Berlin, la rencontre avec les équipes RMC avant le match. Et donc, vos deux places pour la finale le 14 juillet à 21h. On croise les doigts, peut-être avec les Bleus. Dès que vous entendez ceci, vous avez 5 minutes pour envoyer Euro au 7-32-16. Euro au 7-32-16. Écoutez bien parce que, évidemment, ça peut tomber à tout moment et vous allez peut-être vibrer avec les Bleus en finale. Alors, peut-être qu'il n'y aura pas de but, mais on s'en fiche.
On
gagne jusqu'au bout. On en parlera dans un instant. D'abord, le Tour de France, l'occasion pour certains, on vous voit, oui, de faire une petite sieste.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Prudence quand même pour les coureurs aujourd'hui qui évoluent actuellement à 55 km/h. Le peloton qui est groupé, évidemment, il n'y a pas d'échappée.
C'est trop bon, Marcel, je tiens plus. Fais appeler Orly, prends un avion ce soir.
Ben oui, c'est pas l'étape la plus excitante quand même à laquelle nous avons droit aujourd'hui.
Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long.
Et enfin, il se passe quelque chose dans cette course avec un coureur français qui tente de s'échapper.
Il sera sur le podium très certainement tout à l'heure, tout simplement parce qu'il sera le combatif du jour. C'est le seul à avoir attaqué. En même temps, c'est normal qu'il soit récompensé. C'est le seul à faire un petit peu de spectacle.
Voilà, ouais, c'est trop long.
Pardon?
Non, je dis trop long. Moi, j'ai fait ici. Moi, j'ai fait ça. Moi, Jeff. Toi, Michel. Moi, Tarzan. Toi, Jane. Moi, je vais dire quoi, ce qui se passe là. Les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en pyjama et ils zappent sous les experts Miami.
Ah, mon Dieu, que c'est long.
Vous avez entendu, en plus des tuches, attention à ne pas confondre, l'équipe de l'Intégral Tour, hein, Christophe Cessieux, Pierre-Yves Leroux notamment, Arnaud Souk tous les jours, et Christophe Cessieux est là. Salut Christophe.
Comment ça va, mon François?
Ben, ça va bien.
Salut Christophe. Salut Christophe.
Bonjour.
Salut Christophe. On sera bientôt à Monaco, donc les tuches seront à Monaco.
Ah, bientôt. Ben voilà, très bien. On arrive au terme de la première semaine du Tour de France. Il y a eu effectivement de l'émotion, les victoires françaises au début, l'étape de montagne aussi mardi dernier, mais pour le reste, il y a eu pas mal d'étapes de plat. C'est pas passé grand chose, on l'a entendu. Peu d'échappés, peut-être pas beaucoup d'attaquants, pas que des sprints à l'arrivée. D'où cette question, les GG. Ce début de tour vous ennuie-t-il? Oui ou non? Sarah?
Absolument pas.
Simon?
Non, jamais.
Fred?
Un peu.
David?
Non, pas du tout.
Christophe?
Imagine, je peux pas te dire oui, c'est pas possible,
Mais t'as envie de dire
5
oui.
heures par jour. Non.
Mais dis-le, tu as le droit d'assumer.
Je sais que tu cherches du renfort, mais tu n'obtiendras pas de ma part.
Donc oui pour Christophe. Alors du coup,
non,
je plaisante. Fred, toi tu as dit oui quand même.
Oui, j'ai dit oui pour.
Il a dit oui un peu, alors que hier il faisait bien le malin sur notre groupe WhatsApp.
Oui, alors oui, je faisais le malin.
Assume un petit peu.
Moi j'ai pas dit, je ne m'ennuie pas, mais je fais la sieste. Pendant, ça je n'ai pas dit par contre.
Ah, on est d'accord. Quelqu'un a dit ça dans le groupe.
Je ne citerai pas de nom, mais.
Ouais, c'est moi, j'avoue.
David
Douillet,
qui ne s'ennuie pas, mais par contre, je fais la sieste.
Forcément,
Donc, c'est une preuve en soi que certains s'ennuient.
Mais c'est la meilleure solution pour voir le Tour de France, Fred.
Il y en a qui regardent.
C'est qu'il faut savoir alterner la sieste et les moments d'euphorie. C'est comme ça depuis la nuit des
choses. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a pas de moment d'euphorie. C'est que tu l'as dit toi-même, on a écouté dans les résumés, c'est qu'il n'y a pas d'attaquant, il n'y a pas de panneau.
Tu les as
quand même. voir d'habitude des mecs qui partent en échappée.
Mais tu les as vu les étapes ou pas?
Ah ben moi j'ai vu, oui.
Et tu t'es ennuyé?
Je vais te raconter.
Alors toi, tu t'es ennuyé?
Alors je ne regarde pas la fin.
Laissez Fred s'enterrer tout seul.
Je vais continuer.
Alors là, il y a une attaque quand même. Il y a une attaque en règle sur Sarah. Tu regardes que la fin des étapes?
Je regarde la dernière heure.
Ah bah non, la dernière demi-heure quand c'est pris. Voilà.
Parce que le reste qui regarde un match de tennis en 5-7, je regarde le dernier set.
Ah ben non, on regarde tout. Donc je trouve ça très triste. Donc je continue mon argumentaire. La première chose, j'ai adoré écouter la première étape avec Christophe Cessieux. Je lui ai d'ailleurs envoyé un message auquel il n'a jamais répondu.
Non, mais ça c'est Christophe, répond que
je voulais lui dire, voilà, c'est une des premières fois où j'écoute vraiment le Tour de France et c'était génial.
En plus, c'était un message sympa pour
Christophe. C'était un sympa en lui disant que c'était vraiment génial qu'il disait, j'adorais.
Il ne répond que lorsque ça l'intéresse, Fred.
Et franchement, aucun intérêt, il ne m'apportait aucun intérêt. Alors juste pour revenir au débat initial, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, quand je regarde le Tour de France, c'est que j'aime bien voir des mecs qui partent, du panache, de l'envie. Alors oui, au début, on y a un peu cru parce qu'il y a des Français qui gagnaient, c'était cool. Sauf qu'à un moment, même le maillot jaune, il ne le voulait pas trop, il dit non, vas-y, non, c'est toi, non, attends, c'est moi, mais... non, c'est toi. Et finalement, aussi, on m'avait promis un Pogacar, un carnassier, un mec qui allait commencer sur les quatre premières étapes, il allait défoncer tout le monde, ça allait être un massacre, ça allait être splendide. Et ben, il s'est rien passé. Tu t'es pas réveillé au bon moment. Mais sinon, si tu t'étais réveillé au bon moment, tu te serais rendu compte que, le carnassier n'était pas là. Alors lui, il a le maillot jaune. En plus, il va le garder jusqu'au bout. Ça va être lassant. On va s'ennuyer. Et c'est un peu dommage parce que tu sais, quand on met le sponsor en avant, quand on parle de toi, quand on dit ils sont à 5 minutes devant, c'est génial, ils sont en train de se faire attraper, peut-être pas. Eh ben, j'en ai pas vu, mis à part.
C'est dur parce que lorsque tu regardes les efforts qui ont été faits par la commission de course, l'organisation de la course, je veux dire les parcours que Thierry Gouvenou dessine depuis des années, même que Jean-François Pécheux avait fini par améliorer un petit peu avant de laisser la place, il y a quand même un effort qui a été fait justement pour pimenter la course. Je te rejoins en disant que peut-être que cette année,
il
y a eu une étape entre Plaisance et Turin où effectivement on aurait pu attendre des attaques. On n'a même pas eu, on en parlait sur la radio digitale, François, on n'a même pas eu l'échappée publicitaire, comme on dit, tu sais, celle qui sert à montrer le maillot en Mondovision
avant de nous faire attraper. Qui nous plaise, qui donne un petit peu de fantaisie. Il n'y a plus de fantaisie, tout ça. Donc, parce que les mecs ne prennent plus de responsabilité.
Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est pas lié uniquement aux coureurs. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a un effort qui a été fait ces dernières années en termes de production du Tour de France à la télévision. On a beaucoup plus d'informations qu'avant. On a ce qu'on appelle le team radio. On entend les directeurs sportifs, un peu comme en Formule 1. On le fait.
J'écoute la radio, beaucoup plus d'informations
qu'avant. Je te trouve dur parce que on a des parcours. Alors certes qui n'ont pas peut-être révélé autant de suspense que l'organisation en attendait, mais avant-hier, on a eu tentative de coup de bordure, tu sais, il y a quand même plein d'endroits où il peut se passer des choses.
Même eux disent, il peut se passer des choses, mais chaque jour, il faut que ça se passe. Ça révèle déjà un intérêt en soi. Et je peux jouer aussi bien que Wembanyama, mais ça se passe pas. Tu vois, comme quoi, parfois...
David.
Oui, non, mais regardons les résultats de chaque étape. Je veux dire, avec Bardet qui gagne le premier jour, qui prend le maillot jaune, c'est une super belle histoire. Vauquelin, le deuxième jour, c'est une super belle histoire.
Mais il faudrait pas de statistiques qu'on n'aimait pas, justement, nous on n'aime pas les statistiques, les forces du sportif, c'est ce que tu nous as dit toi.
Je sais, mais je te jure, franchement, est-ce que vous avez vu à quelle vitesse ça roule tous les jours? Est-ce que vous avez vu que à chaque fois que le drapeau qui est abaissé par Prudhomme le départ d'une étape, ça roule fort tout de suite, tout le temps. À un moment donné, il faut se rendre compte de la réalité. Ouais, ben tous ensemble, je peux dire qu'il faut pédaler, il faut appuyer sur les manivelles, hein, parce que quand ça roule à 50 de moyenne, voire plus, c'est chaud, quoi. Comment tu veux t'échapper de tout ça? Comment tu veux museler et gérer ton effort quand il s'agit d'amener au bout d'une étape que tu sais pertinemment, enfin, il y a une chance sur 9 chances sur 10 pour que ça se termine au sprint, où tu protèges ton sprinter joueurs dans ton équipe et tu n'essayes pas trop de cramer. Et donc, le Tour de France ne fait que débuter.
Tu es obligé de gérer l'effort. Tu vas faire le sprint, donc ça va être chiant pendant 4 heures. Et Christophe, c'est
chiant. Non, mais 2 heures, ils sont pas que c'est chiant, mais si. Quand tu es passionné de vélo, je suis désolé. Quand tu es passionné de vélo, rien que le fait de regarder les mecs rouler à 50, enfin, moi perso, c'est intéressant. Je trouve ça prodigieux. Prodigieux. Tu vois, quand t'as appuyé un jour sur une pédale, quand t'as mis ton cul sur une selle, je peux te dire que là, quand tu vois les gars rouler ensemble, quand tu vois les gars collés contre eux, quand tu vois que ils ont à peine le temps de s'écarter quand il y a des terre-pleins, etc., et qu'il y a des risques de chute, etc.
Non, mais David, on n'est pas en train de dire qu'on n'aime pas le Tour de France. On est en train juste
c'est
de dire
plat, quoi.
Qu'on s'ennuie un petit peu parce que justement, il n'y a pas ces petites échappées. Il n'y a pas Pogacar qui vampirise le truc. C'est ça que je dis. Moi, je suis pas en train de dire que je n'aime pas le Tour de France.
Mais regarde l'étape d'hier. On a le maillot à poids fait 120 bandes d'échappées. Ouais. Tu vois,
160.
Tu vois, le mec, il a appuyé, c'est fort. Tout seul, mais c'est fort. Tu te dis, voilà, il a plus de 6 minutes d'avance. Le mec, il appuie comme un sourd, etc., etc. Jusqu'où. Bon, évidemment, quand t'as un peu l'habitude, tu sais que il y a beaucoup de chances, et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Il s'est fait rejoindre. Mais malgré tout, quand même, tu vois, il a obligé le peloton à rouler derrière lui, parce que s'il roulait pas, il le rattrapait jamais, le pépère. Hein.
Christophe.
Non, alors juste, Fred, tu n'as pas la culture du vélo. Toi, tu as la culture de 4 cartons de 10 minutes. 4 cartons de 10 minutes. C'est sûr que c'est pas la même chose que 6 heures par jour pendant 21 jours. Tu peux pas les mettre au même rythme que dans un match de basket, les coureurs cyclistes. T'imagines? Alors déjà, en plus, on est là à dire, ouais, attention au dopage et tout ça. T'imagines s'ils jouaient sur le même rythme que dans un match de basket? C'est pas possible.
Les mecs ne tentent même pas le coup. C'est ça qui me choque un petit peu, qui me dérange un petit peu.
Tu as les étapes de plaine, Fred, effectivement. C'est pas les étapes les plus excitantes. Faut être un passionné de vélo pour être passionné par ces étapes. Voilà. Pour arriver à voir les braquets qu'emmènent les mecs, les stratégies d'équipe. Ça, évidemment, pour le commun des mortels, pour les gens qui s'intéressent pas au vélo le reste de l'année, je comprends qu'ils puissent s'ennuyer sur ce genre d'étapes. Mais, justement, et c'est ce que disait Simon tout à l'heure, les organisateurs du Tour ont réussi à faire qu'il n'y a jamais deux jours de suite d'étape de plaine désormais. Chaque fois, au bout de la troisième journée, ils te mettent un truc différent. Ce sera le cas aujourd'hui.
Là, il y a mercredi, jeudi, quand même, deux étapes plates, quand même.
Deux étapes plates. Et la troisième journée, t'as un truc exceptionnel. Ouais.
Exceptionnel.
C'est génial. T'as 12 secondes d'écart entre les deux premiers. Voilà. Et
avec un Français qui a fait un temps de dingue aussi.
Kevin Vauclin.
En plus, Kevin Vauclin, il a fait un temps. Effectivement.
Il fait un temps de dingue et il tient le haut du chapeau pendant un bout de temps.
Voilà. Et puis alors, Fred, tu dis que t'as envie que Pogacar écrase tout. Mais nous on veut surtout pas ça, quoi. T'imagines si au bout de la première semaine t'as 10 minutes d'avance ou même 2 minutes 40 comme il y a eu sur le Giro après une semaine. Mais là tu vas vraiment t'ennuyer pendant 15 jours.
Non, c'est pas le cas.
T'as quatre mecs qui se tiennent en 1:36. Mais t'as pas vu l'énergie dans la descente du Galibier? Tu faisais la sieste encore? Il faut arrêter de faire la sieste, Fred, dans la descente du Galibier.
Je ne peux pas faire la sieste. Mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est que Pogacar, on avait dit que ce serait un carnassier qui l'attaquerait, donc je pensais qu'il allait être suivi, qu'il y aurait des échappées, qu'il y aurait des tentatives à n'importe quel moment.
Tous les jours,
on m'avait vendu le fait que les 4 premiers jours seraient un massacre. C'est loin d'être.
C'était pas mal les 4 premiers jours, Fred.
Mais c'est pas un massacre.
La spécificité du
ne regarde que les 10 dernières minutes des étapes.
Alors, ne transforme pas une heure en 10 minutes, c'est pas ce que j'ai dit. Non mais. Alors, je peux parler ou pas?
Oui, bien sûr, vas-y.
Le cyclisme, comme d'autres sports que je peux comparer avec le tennis dans les grands chelems, il y a des temps forts et des temps faibles. Et les temps faibles, évidemment, dans des étapes de plaine, c'est souvent on va dire 80% de la course, qui n'est pas le cas dans les étapes de montagne. Mais on se pose la question aujourd'hui, mais ça fait plus de 110 ans que c'est comme ça sur le Tour de France.
Je me souviens des Tours de France
où on était en plein centre de la France. Et il y avait 4 étapes comme ça où il y avait du vent, il ne se passait strictement.
Mais 4 étapes comme ça, mais là je parle sous le contrôle de Christophe.
Rien.
Il y a des années où il y avait 8, 9, 10 étapes d'affilée où il ne se passait rien. Ça arrivait au sprint, il y a 2 mecs qui se disputaient la victoire.
Le maillot vert et basta.
Et là tu avais le bruit de l'hélico, c'était le seul truc.
Et là tu dormais.
Même si tu ne voulais pas faire la sieste, tu t'endormais.
Et je rejoins Simon et on en parlait hier hors antenne. Ce que je trouve. Que extraordinaire aujourd'hui, c'est toutes les informations qu'on est capable de nous donner, même dans ces temps faibles, qui fait que tu tends l'oreille. Parce
ah oui,
que...
la petite église par-ci, les
non,
petits...
mais non, non, mais là, c'est récepteur. Non, non, c'est pas ça. Aujourd'hui,
c'est ce qui endort David, par exemple. Quand tu parles, comment ça a été
les temps entre
ça,
les différents groupes, on est capable de nous dire dans combien de temps ils vont les rattraper, les braquer, et les stratégies de course. Enfin, moi, je me suis... Oula, j'ai regardé toute l'étape. C'est le chrono. Je me suis régalé.
Tu faisais la vanne, je suis désolé. Ça reste aussi...
Le Tour de la France.
Mais oui, exactement. Le Tour de France, c'est le Tour de la France. C'est la visite des Français. C'est le Tour de France, c'est une course cycliste. C'est le plus grand spectacle sportif du monde gratuit.
Gratuit.
Et c'est une certaine image, une certaine idée de la France sur les routes, de la France en vacances, de la France l'été. Et ça, tu l'enlèveras pas, que ce soit une étape de
plaisir. J'adore le Tour de France, j'adore voir les images. Il faut aussi forcer de constater que parfois tu t'ennuies.
Bon. Et ben tu fais autre chose à ce moment-là.
Et
voilà.
Tu peux faire la sieste, par
exemple. J'aimerais prendre Philippe qui a fait le 32-16 dans les Grandes Gueules à 11h20 en direct. Salut Philippe.
Bonjour à tous.
Salut Philippe. Oh,
c'est animé, hein. C'est animé.
Débat animé. Tu vas peut-être venir au secours de Fred ou...
Ah, moi je vais au secours de Fred. Ah, alors je sais pas quel âge a Fred. Moi,
il est très très vieux.
Il est très très vieux.
Non, je suis pas très vieux.
Voilà, moi j'ai 60 ans et j'ai la nostalgie. Des années 70-80, j'étais gamin, j'allumais le poste, je voyais... Alors, forcément, vous voyez que les dernières 20 minutes.
Ah, mais bah en fait, ouais.
J'ai la nostalgie de l'ardoisier, du mec qui partait...
Mais Sarah aussi, c'est pour ça qu'elle fait la même chose.
Il avait rien dans l'oreille. Oui. Hier, j'ai regardé l'étape, un moment, qu'est-ce que je vois à l'écran ? Bon, les gars, vous allez pouvoir attaquer au 16e kilomètre, il y a deux côtes, c'est tout juste... Voilà, il n'y a plus aucun intérêt.
C'est téléguidé.
Non, mais
ça.
Pour toi, c'est les oreillettes qui ont tué justement les ambitions des
On calcule, on calcule.
C'était mieux avant, là, entendu sur tous les sports.
Mais vas-y, non, mais on calcule leur fréquence cardiaque, leur VO, leur indice de fatigabilité. Mais ça devient n'importe quoi.
Mais comme dans tous les sports. Dans tous les sports, on est dans la précision horlogère.
Oui, sauf que quand l'épreuve dure aussi longtemps, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais ce que veut dire Philippe, c'est que les oreillettes et les directeurs sportifs.
D'accord, un tennisman, il va avoir toute la technologie à l'entraînement pour apprendre, pour décomposer son geste, améliorer le lift. Voilà, le cycliste, il part. Mais moi, je me souviens d'étapes de plaine. C'est un Allemand, je crois, à l'époque. Il était parti, il avait mis 20 minutes au peloton et il était resté maillot jaune 5-6 semaines.
Ouais. Et ça, c'est pas ennuyant, voilà, ça
5-6 semaines.
Ben non, c'était je me souviens d'un Jalabert, un 14 juillet qui s'en va. On vibre, on dit, est-ce qu'il va tenir? Aujourd'hui, on sait, hier, bon, le pauvre gars, bon. Alors, attends, pauvre gars, non.
Abraham Sen.
Comme disait
Christophe, Simon,
Patrick.
J'allais dire monsieur...
David Douillet.
David, voilà, excuse-moi David, hein, je fais 90
kilos. C'est pas grave, c'est l'émotion.
Voilà. Comme disait David, c'est incroyable. Moi, je fais un peu de vélo, j'ai 60 ans, j'ai troqué contre un vélo électrique. Bon, bref. Mais voilà, monter une côte, voilà, faire 180 kilomètres tout seul, mais c'est un effort surhumain. Et moi, j'en veux pas.
Lui, précisément, il n'a pas fait de calcul. Hein.
Voilà, moi, j'en veux pas aux coureurs. Moi, j'en veux... ce matin, vous avez interviewé au sujet d'étape. On a dit une étape avec des gravillons, des chemins et tout. Les coureurs étaient un peu enthousiastes.
Oui.
Et à un moment, on tombe contre l'autre mauvais, là, le Fevert, non ?
Ah, Patrick Le Fevert, le patron de Quick-Step.
Voilà. Ah non, c'est pas bien. Vous vous rendez compte, ils risquent de tomber et tout. Bah non, mais c'est ces mecs-là qui tuent le cyclisme.
Ok, Philippe.
Avec leur ordinateur, avec tout ça, c'est eux qui tuent. C'est pas les coureurs.
Ce que justement Philippe est en train de dire, Christophe aussi, c'est peut-être que les oreillettes, les directeurs sportifs, toutes les stratégies de course annihilent un peu. Ces coureurs qui ont envie peut-être de se montrer, parce que il y a des coureurs qui vont traverser le tour de façon totalement anonyme. Hein. On n'en aura jamais entendu parler.
Ils sont de plus en plus robotisés. Les coureurs sont de plus en plus robotisés. Ils obéissent aux ordres des directeurs sportifs qui sont dans leur équipe. Et aujourd'hui, tu peux plus tenter d'échapper
si ton
directeur
sportif.
Ça, c'est très triste. Ça, moi, je suis d'accord.
Oui, mais quand tu regardes,
c'est très triste. Et pareil, David. Juste un dernier détail. Dans le contre-la-montre l'autre jour, avant le contre-la-montre, tu attendais les temps intermédiaires, tu sais, pour savoir si si l'un était en avance par rapport à l'autre. Désormais, avec la téloche, il nous donne les temps virtuels. Donc tu n'as plus aucun suspense sur la fin de l'étape. Tu savais qui allait gagner dans les 5 derniers kilomètres, alors qu'avant, effectivement, tu étais dans l'incertitude et ça ajoutait un petit plus. Là aujourd'hui, on a peut-être un peu trop d'infos, à mon avis, qui sont communiquées au public, même aux journalistes et même aux coureurs qui du coup ne peuvent plus. Vous avez vu l'autre jour ce que Cédric Vasseur a mis à Zinglet, coureur de l'équipe Cofidis, parce qu'il n'avait pas, il n'était pas au bon endroit pour protéger un de ses leaders et qu'il a choisi d'attaquer. Non, mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les coureurs sont trop robotisés, ils sont trop aux ordres de leur directeur sportif et ils n'ont plus beaucoup de liberté dans le peloton.
David, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui. Ouais, moi je pense que l'information, au contraire, et même si tu connais un peu le résultat à l'avance, te permet d'y ajouter un grain de piment, un vrai grain de sel, parce que tu es là en train de te dire, est-ce qu'il va grappiller quand même 2 ou 3 secondes ou est-ce qu'il va craquer, etc. Enfin, moi je trouve que le fait d'établir les tactiques, de connaître les tactiques, de savoir qui veut faire quoi, comment, pourquoi,
trop d'informations, plus d'informations.
Non, c'est pas vrai. Tu vois si les équipes y réagissent, tu vois si les coureurs réagissent ou pas, s'ils le font, s'ils le mettent en œuvre, s'ils sont contrés, etc. Moi, je trouve que ça amène justement un peu plus de matière pour justement ne plus regarder de manière passive, parce que quand t'es là et que t'as pas l'info, tu dis ah pourquoi il fait ça, on comprend pas, etc. Tandis que là, on te décrypte les choses, on anticipe les choses, et je trouve qu'on anticipe pas les choses, qu'elles se fassent ou qu'elles se fassent pas, ça amène de l'intérêt à l'événement.
Oui, mais fais gaffe, David, parce que vous allez tuer le métier de consultant, du coup, là, s'il y a trop d'informations. Vous servirez plus à grand chose.
Justement, le consultant amène des informations.
T'inquiète pas, ils arriveront à se recaser, hein.
En tout cas,
mais non, parce qu'il y en a qui se trompent.
Il y en a qui sont tous au chômage, les consultants, dis-moi.
En tout cas, David, t'as été immense, hein. Je tenais à le relever après la 5e étape.
On l'a vu à
le diffuseur
télé,
de la course, Monsieur Douillet, dans le débrief.
Merci d'être venu nous voir, David. Merci d'être venu nous voir.
D'ailleurs, t'as mentionné les grandes gueules du sport, je crois. il me semblait.
Et c'était par hasard, c'était vraiment pas prévu, je vous assure, c'est passé à côté de chez moi à Saint-Vulbas. Ouais, non, c'était pas prévu.
C'était vraiment par hasard. Comme ça,
exactement, Laurent Louia. Et il m'a invité, etc. C'était super sympa et j'étais vachement à l'aise parce que
tu lui as pas dit que tu faisais la sieste à ce moment-là.
non, mais la victoire de Cavendish, sa 35e victoire, c'est magnifique.
Oui, en plus. Enfin,
moi, j'admire
ce
coureur. Très franchement, le fait de vouloir abandonner le Tour l'année dernière, de raccrocher le maillot, etc., etc., d'être repris par Vinokourov et puis d'essayer de tenter le truc. Enfin voilà, c'est la résurrection du Phénix. Là, c'est magnifique. Moi, c'est splendide ce type de victoire.
Vous avez vu comme il nous a embrouillé, hein. D'abord, on lui a posé une question, pourquoi il était là-bas, et après, il a rebondi sur toute autre chose. On ne sait même plus la question qu'on a posée. Hein.
Immense. On va remercier Philippe, en tout cas, d'être passé au 32-16 pour nous rejoindre dans les grandes gueules. On va remercier aussi Christophe, qui, là, va vivre une belle étape. Hein.
Christophe, merci beaucoup de nous faire vivre ça, vraiment, et de nous répondre sur les messages.
J'ai pas vu ton message, Fred. Je ne l'ai pas vu, je te jure, je ne l'ai pas vu.
Christophe qui dit encore la téloche, on note.
Oui. Ah oui, bah c'est Christophe, c'est sûr.
Tu dis comment, toi ? Tu dis la TV ?
La télé. Moi, j'écoute que la radio, moi, Christophe.
On t'écoute, évidemment, Christophe. Aujourd'hui, l'intégral tour à partir de 15h hein, sur RMC.
Ouais, 15h jusqu'à 19h45. Voilà.
Donc, qui va gagner aujourd'hui, Christophe ?
Viens m'écouter, on va s'ennuyer.
Je m'ennuie jamais quand je t'écoute.
Non, on s'ennuie jamais en écoutant RMC. Et puis, il y a la radio digitale 100% route, hein, en direct dès midi, là, dans une demi-heure. Ce sera jusqu'à 20h. Vous vous branchez sur l'appli RMC et vous avez du vélo toute la journée, voilà, pour les passionnés de vélo comme Fred, tu peux. Et en plus, il y a l'excellent Jérôme Pinault qui va te décrypter tout ça, tu vas adorer.
Ça va être magnifique.
Mais oui, c'est magnifique tous les jours. Et Christophe, favori, aujourd'hui, t'as joué qui ?
Alors, tu sais, on a plusieurs sortes de paris. Sur les paris, comme je suis en tête du classement des paris, je suis obligé de désigner mon favori en dernier, donc à chaque fois, je ne peux pas gagner, c'est pas possible.
Ah, tu peux pas donner le même qu'un autre, ouais.
Eh non, je peux pas donner le même qu'un autre. Moi, je pense que il faudra surveiller Pogacar aujourd'hui, parce qu'on rappelle qu'il a gagné, sur le même genre de terrain en Italie il y a quelques semaines. Van der Poel est également vainqueur de Paris-Roubaix. Ça va peut-être se jouer entre ces deux-là. Van Aert qui hier n'a pas complètement fait le sprint et qui en a gardé sous la pédale. Donc ça va peut-être se jouer entre ces trois-là. En tous les cas, ça va être un grand spectacle, hein, de la poussière,
Le Tour de France comme on aime.
Que c'est bien. vendu.
Bah, t'as vu, hein, c'est bien vendu. Tu vas tout regarder, et tout écouter surtout. Merci Christophe, à bientôt. Dans un instant, retour des grandes gueules du sport. Vous retenez quoi du parcours des Bleus? Oui, on va reparler de l'équipe de France. Est-ce que vous retenez la solidité ou plutôt l'inefficacité? 32-16 pour nous rejoindre. On revient tout de suite.
Juste un petit jour en lire à faire. Avec Koundé dans la surnavation. Koundé qui va sauter. Il n'y a personne. Thuram. Oh, aïe, 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 aïe. À quelques centimètres à gauche. Allez, tout seul, allez, 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 pourquoi il frappe pas? Qui est le mal qui glisse sous le ballon? Ce sont les rois de la terre, la fiesta, la fiesta. Le pivot, la frappe, et le but. Cinquième
non,
but.
Non, mais ce sera peut-être Vertonghen contre son camp.
Mais non, c'est pas Vertonghen contre son camp. Regarde, Et en séance de tir au but, c'est fini.
Allez,
0-0, séance de tir au but à venir pour savoir qui du Portugal ou de la France ira en demi-finale face à l'Espagne.
Que si les gens, ils aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne. Jusqu'au petit jour,
on ira faire. On espère que ça sera un peu d'artifice, évidemment, mardi, les Bleus qui vont être encore questionnés jusque-là sur leur jeu minimaliste. Ils répondront sans doute qu'ils sont solides et que c'est ça le plus important. Alors cette question, allez, grande gueule. Est-ce que vous retenez plutôt la solidité ou le manque d'efficacité des Bleus? Sarah.
Solidité.
Simon.
L'inefficacité.
David.
Solidité.
Fred.
Les deux.
Les deux. Denis Charvet dans les GG ce matin.
Les deux, parce que l'un ne va pas sans l'autre.
Ok, on va en parler dans un instant. D'abord, on va accueillir Loïc Braillet en direct d'Allemagne, l'un de reporters RMC sur l'Euro. Salut Loïc.
Salut François, salut les GG.
Salut Loïc.
Salut. Salut.
C'est vrai, on le répète, hein, mais aucun joueur français n'a marqué de but dans le jeu depuis le début de l'Euro. Mais défensivement, ben, y a certains bleus qui se sont révélés. C'est vraiment devenu une marque de fabrique pour l'équipe de France, cette solidité.
Ouais, un seul but encaissé effectivement et encore sur pénalty sur les 5 matchs de 7 euros. La France est un coffre-fort que les adversaires n'arrivent pas à ouvrir et dans ce succès défensif, il y a deux joueurs à mettre particulièrement en avant. Le gardien bien sûr, Mike Maignan, dont on ne savait pas comment il allait prendre la suite de la légende Hugo Lloris. Hein, c'est bon, maintenant on est au courant, on sait, il est parti a priori pour de très belles longues années. Et William Saliba, un peu meilleur à chaque match depuis le début du tournoi, une vraie montée en puissance pour celui qui a réussi finalement à profiter de l'absence pour blessure de Lucas Hernandez et de la méforme d'Ibrahima Konaté. Il n'était pas du tout programmé pour être là où il est aujourd'hui. Le problème, c'est que cette force défensive n'efface pas du tout le reste et notamment ce néant offensif qui accompagne le parcours des Bleus. Écoutez Aurélien Tchouaméni.
On est en demi-finale sans marquer, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est historique, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir qu'on marque des buts quand même. On reste confiant, peu importe ce qui se passe, même si des fois on se fait taper dessus et... Des fois, juste titre, c'est vrai, mais on reste calme. On sait que le plus important, c'est le match qui arrive après. Peu importe si individuellement, même collectivement, on fait une mauvaise performance. On sait que le match d'après, c'est juste une nouvelle opportunité. Et aujourd'hui, on est en demi-finale. Donc malgré tout ce qui s'est dit, je pense que c'est quand même pas mal. Même si, comme je l'ai dit, on doit faire mieux, mais on va pas faire les fines bouches. On est très content d'être dans ce carré.
Voilà, pas faire les fines bouches, même si parfois c'est vraiment dur pour les observateurs que nous sommes, mais certains joueurs voient quand même du positif, comme Ousmane Dembélé.
Ce qui est positif, c'est qu'on se crée les occasions. Je pense qu'il manque l'efficacité. On n'arrive pas à les mettre au fond, mais il y a les situations. C'est ça qui est positif. Après, sur le jeu de l'équipe de France, c'est comme ça. Alors on joue comme ça, on est en demi-finale. Ceux qui sont pas contents, c'est pas notre problème.
Voilà, c'est comme ça, et ceux qui ne sont pas contents, ils n'ont qu'à zapper, hein. Vous avez entendu Didier Deschamps dans la petite production juste avant. Le résultat, rien que le résultat, la philosophie du sélectionneur a en tout cas bien infusé au sein du groupe.
On l'a bien compris, on va te remercier Loïc, parce qu'il y a la conférence de presse de l'équipe de France que tu vas suivre, c'est ça, tout à l'heure.
Dans 20 minutes.
Voilà, on connaît les chanceux.
Kolo Muani, Youssouf Fofana.
Très bien, bah, sans doute que la question leur sera posée sur la solidité des Bleus. Merci beaucoup en tout cas Loïc et à très bientôt. Oui, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous retenez plutôt la solidité ou l'inefficacité de l'équipe de France? Simon, tu es le seul pour l'instant à avoir dit l'inefficacité.
Oui, alors je suis bien conscient qu'on est en demi-finale, on en a parlé hier, ouais. Ça force le respect, atteindre ces altitudes-là dans les grands tournois, c'est déjà un accomplissement, on va pas bouder notre plaisir, tout ça. Oui, la solidité, c'est remarquable, j'entendais Didier Deschamps hier chez nos amis d'une des chaînes qui diffuse la compétition, nous rappeler à quel point c'est important, on sait que c'est l'école Jacquet, tu sais, ouais. On a réussi à faire de notre solidité défensive en 98, une marque de fabrique, c'était formidable. À l'époque, on avait quand même des mecs qui te faisaient un peu rêver quand même sur le terrain, quoi. Un Zinedine Zidane, un Djorkaeff, ça pouvait être un machin. Mbappé a été un petit peu inélégant en rappelant qu'un Paul Pogba avait un petit peu de flair, lui aussi, un peu de créativité, pouvait te faire rêver.
Sous-entendu, il y en a pu.
Moi, je veux pas faire le peine à jouir, il n'y a pas de problème. On est forcé de constater qu'on n'a pas mis un pion dans le jeu dans cette compétition. On a un mec qui a déjà marqué combien 9 buts en Coupe du Monde, Kylian Mbappé, en deux éditions, qui n'en a pas mis un. J'ai suffisamment pointé du doigt le côté un peu caricatural, cette fois-ci, de la liste de Didier Deschamps, qui préfère donc des mecs physiques, costauds, qui courent vite, qui savent finir, mais bon, qui manquent un petit peu quand même de créativité. Dembélé, il a raison, en fait. C'est normal qu'il s'en foute royalement, nous, de notre avis, les joueurs, tant que tu continues. Le problème, c'est que quand tu marques pas un but, tu ne peux pas... tu peux te qualifier dans un tournoi, mais tu peux pas gagner, tu vois. Ouais. Tu peux te qualifier, ouais. Mais tu peux pas
tu
gagner.
Tu peux gagner à la donc, fin, enfin, la, bah, tu peux gagner la finale sur tir au but, 0-0.
Oui, ben bah voilà, bon, écoute, tu sais, c'est...
Imaginons
oui, mais sans solidité, t'es plus là possible. Non plus, en fait. Sans voilà, solidité, mais... sans force collective, sans défense collective.
Sarah, c'est pour ça qu'il y a les deux, je suis d'accord avec ça.
Tu peux en mettre 9, mais si t'en prends 10...
Je suis d'accord.
C'est pour ça que...
Je l'ai dit hier, on avance dans ce tournoi parce qu'on a Yachine dans les buts et Beckenbauer en défense. Bon, au bout d'un moment, ce serait bien qu'on...
Raison,
je sais pas qu'on arrive à s'emballer sur un but, une
Simon.
Action collective, un 1-2, une combinaison, un centre pour une tête. Je demande l'impossible, je sais, mais bon.
Ce qu'on retient, pour les raisons pour lesquelles on est en demi-finale aujourd'hui, c'est grâce à la solidité, pas à l'inefficacité.
Ouais, parce que si on c'est historique quand même. On est la première équipe depuis la création de l'Euro à ne pas avoir mis le but dans le jeu et être qualifié en demi-finale. Ça n'est jamais arrivé.
Et c'est la solidité qui fait que peut-être sur un match, si cette inefficacité elle se transforme en un match en efficacité, on peut gagner mais, ce championnat d'Europe.
Oui, mais on serait favori. D'accord, mais est-ce qu'on serait favori, ça, c'est ça la question.
Est-ce qu'il faut se gargariser? Est-ce que cette
mais c'est
stat,
pas la question,
elle est inédite? Est-ce qu'il faut en faire une fierté? Est-ce qu'il
mais
faut
non, mais c'est pour ça qu'il faut finir les deux.
Est-ce qu'il faut finir les Champs-Élysées en disant on a gagné sans mettre un pion?
Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il faut se rappeler qu'effectivement, on ne met pas un but. On n'est pas bon offensivement. Et malgré ça, grâce à notre solidité défensive, on en est où on en est. Parce que ça n'est jamais arrivé. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de mettre sur un pied d'égalité les deux choses. Parce qu'effectivement, on est catastrophique en attaque. On ne va pas se mentir. Alors, oui, on dit qu'on se crée des occasions. Moi, je trouve qu'on est catastrophique en attaque. Sauf que.
Bah non, on n'est pas catastrophique. Il y a des occasions. Sauf qu'on n'est pas dans la réussite.
Sarah, tu sais ce que c'est l'objectif du foot, c'est de mettre des buts, hein, quand même, de temps en temps. Et alors, de temps en temps, mettre un but, c'est pas mal. Donc, moi, je pense que.
L'objectif du foot, c'est de ne pas en prendre un aussi.
Oui, mais il faut les deux.
Non,
c'est pas ça la règle du foot. La règle du foot, c'est en prendre moins que tu n'en mets. C'est ça, la règle du foot exacte. Et donc, juste pour dire que pour moi, c'est très important.
Ou en mettre plus que tu n'en encaisses.
Ben oui, mais au moins un écart.
On va pas chipoter sur ça. C'est la vision du foot quand même de certains entraîneurs qui préfèrent en mettre plus quitte à en encaisser que l'autre qui préfère ne pas en encaisser.
Mais pour moi, c'est indissociable. Cette attaque qui est catastrophique, et encore une fois, on n'est peut-être pas d'accord, mais pour moi, elle est catastrophique vu que tu mets pas de but. Alors oui, il y a des occasions, mais c'est pas dedans, donc c'est catastrophique. Mmh. Et de l'autre côté, cette défense qui est incroyable, pour faire une bonne compétition, il faut quoi? Un bon attaquant, un bon gardien. Le gardien, on l'a, on cherche encore l'attaquant, c'est tout.
Non,
voilà.
Mais
on en est quand même en demi-finale.
C'est réducteur. C'est très minimaliste.
Oui, mais c'est schématique. Évidemment, il y a d'autres joueurs autour, évidemment.
Je suis désolé, on en arrive quand même à, je sais pas, à exulter parce que on a William Saliba, moi, qui, à titre personnel, ça me régale. Pour moi, c'est le meilleur joueur de ce tournoi. Mais, tu sais, c'est très français. On a réussi à critiquer Deschamps après le titre mondial de 2018 en disant, ça fait pas rêver le style de jeu et tout, mais les champions du monde 2018, jamais aucune équipe dans l'histoire de la Coupe du Monde n'avait marqué autant de buts dans une phase finale. Là, je suis désolé, il y a pas un pion. Le seul frisson qu'on a eu depuis le début de la compétition, c'est les percées de Dembélé lorsqu'il est entré en jeu en quart de finale.
Mais je suis d'accord.
Dembélé, ce serait bien qu'il nous cadre une frappe dans la saison quand même pour le PSG ou l'équipe de France, quoi. Ça pourrait nous aider.
David.
Moi, je vous trouve dur parce que, enfin, tous autour de cette table, on a tous eu des moments avides, on a tous eu des moments pénibles, on a tous eu des moments où c'est compliqué, t'es à la ramasse, tu cherches ta voie, c'est pas évident, et tu rames. Et je trouve que Sarah a raison. La première chose, c'est de pas prendre de but et d'être solide, et ça, on l'est. La compétition n'est pas terminée. Des occasions, il y en a. Alors, il y en a pas beaucoup, certes, mais il y en a quand même. Si du peu d'occasions qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant, on avait eu 2, 3 ou 4 buts en plus, on serait peut-être pas en train de discuter de tout ça. Voilà. Et je trouve qu'on
est assez dur, en fait, David. En fait.
Et d'ici là, j'espère que. Et on en a parlé tout à l'heure, l'équipe a été un peu construite autour de Mbappé, c'est vrai. Et le Mbappé, bah, il est fatigué, il est pas là, il est en dehors du champ, etc. Et c'est pas simple. S'il retrouve sa motivation, sa vivacité et son plaisir de jouer, tout va rentrer, je pense, et j'espère, dans l'ordre. Toute la mécanique va se mettre en route. Mais le plus important, aujourd'hui, à ce stade, et c'est pour ça qu'on est en demi, vous l'avez tous dit, c'est d'avoir été suffisamment solide pour pas prendre de but et sauver ce qui était sauvable. Mmh. Après, tu fais comme tu peux, voilà.
Oui, mais il faut faire un constat objectif aussi, David.
Oui, non, mais il est objectif.
Objectivement, offensivement, on n'y est pas du tout, et donc il faut le retenir quand même.
Je suis d'accord.
Et il faut progresser sur ça, il faut être meilleur, justement, contre l'Espagne, par exemple.
Je suis d'accord. La compétition n'est pas finie.
Faut pas l'occulter.
La compétition n'est pas terminée.
Faut pas l'occulter quand même.
Mais la compétition n'est pas terminée. Oui. Et je pense que si jamais Mbappé commence à se réveiller, là, on va parler d'autre chose.
On en reparlera, bien sûr. Et on va continuer d'en parler, là, puisqu'il est 11h44. On continue jusqu'à midi. Ce débat, solidité, manque d'efficacité. Vous venez au 32-16 nous rejoindre, bien sûr, dans les grandes gueules. On vous attend. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Et oui, encore une dizaine de minutes à passer en votre compagnie dans les grandes gueules du sport. Votre émission, vous le savez, tous les week-ends de 9h30 à midi. David Douillet, Sarah Pitkowski, Simon Dutin, Fred Weiss. Aujourd'hui, on continue évidemment de lancer ce France-Espagne depuis ce matin. Ça sera mardi, cette demi-finale de l'Euro. On a parlé, bien sûr, de Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, en ce moment, on était en train de parler de la solidité ou de l'inefficacité. Qu'est-ce que vous retenez de cette équipe de France depuis le début de la compétition ? Vous êtes nombreux à nous rejoindre au 32-16. Julien est avec nous. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce dimanche matin.
Salut Julien.
Ouais, vous allez bien ?
Bah bien, et toi ?
Ça va, on est là, tranquillement. On sort du sport, ça va.
Très bien.
Ouais, je vous ai bien écouté.
Ouais.
Et bon, après, je comprends, la plupart des personnes, elles veulent regarder des matchs pour voir des buts. Moi, je ne suis pas un grand supporter de l'équipe de France, hein, même des fois, je ne l'aime pas trop. Mais sur le match contre le Portugal, que j'ai regardé en entier, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Parce que moi, je suis dans le milieu du foot. J'ai pris beaucoup de plaisir parce que défensivement, ce que fait l'équipe de France, et depuis le début de la compétition, il ne faut pas oublier, elle joue à 10, hein. Parce qu'il y a un mec devant avec un masque, il fait rien du tout, ni il défend, ni il attaque. Mais en plus, je dis pas ça pour rigoler, ni rien. C'est très fort ce qu'elle fait défensivement.
On n'a pas les contrats,
mais alors, après, je comprends que c'est frustrant. Et c'est vrai, à un moment, ce que tu as dit, c'est que on peut se qualifier sans marquer des buts. Mais c'est vrai que c'est très compliqué d'aller jusqu'en finale, et en finale, sans trop marquer, 0-0 ou 1-0, ou 1-1, gagner une compétition. C'est très rare, je crois. Faut chercher loin, et je pense pas que ce soit arrivé. Mais.
Ça serait historique.
Mais il est possible que. Moi, j'ai regardé aussi le match de l'Espagne. J'ai regardé tous les quarts de finale en entier. L'Espagne, c'est une équipe très faible. Même si elle a eu des matchs où elle a mis beaucoup de buts, c'est une équipe très faible.
Je suis d'accord avec toi, on l'a un peu survendu.
Ils sont pas très matures. Ouais. Et c'est possible que sur ce match, l'équipe de France, elle mette des buts. C'est possible aussi qu'elle perde.
Sarah.
Moi, je vais retenir parce qu'il faut faire un choix.
n'est-ce pas, Fred? Et moi, je
choisir, c'est renoncer, Sarah.
Et oui, absolument. Moi, je choisis la solidité parce qu'on parle d'un sport collectif et la solidité, pour moi, c'est la force collective. Et on peut expliquer ce qu'on veut dans le foot, c'est-à-dire qu'il faut plus de défenseurs et tu mets une pointe à l'avant, donc il faut que ta force collective elle soit derrière. Donc évidemment, on est inefficace, mais si on était pas solide et inefficace, on serait pas en demi-finale. Donc par défaut, je retiens cette solidité. Alors, mais parce
Deschamps,
que c'est celle qui nous Deschamps permet d'être encore
personne.
Là.
Deschamps le sait mieux que personne. Il est de l'école Jacquet, Jacquet mettait Lilian Thuram, meilleur défenseur central du monde, arrière droit. Deschamps, il a choisi de mettre Jules Koundé, défenseur central de formation, sur un côté. Une équipe, elle doit d'abord savoir défendre, évidemment. Évidemment.
Et celui, au bout d'un moment,
c'est juste que ça devient un peu caricatural.
Oui, on est voilà, d'accord, mais là, on est dans la caricature, on est dans les grandes gueules. Le symbole de la solidité de l'équipe de France, pour moi, c'est Mike Maignan. Ouais.
Lui, voilà. Il est énorme.
On va
remercier Julien, mais il y a une question et je pense que Moustapha est un peu sur ce thème-là. On va l'accueillir, Moustapha, au 32-16. Salut, Moustapha.
Salut, bonjour à tous.
Salut, Moustapha.
Bonjour. Oui, salut. Tu voulais, je crois, parler en tant que supporter de l'équipe de France.
Voilà. On oublie un petit peu le détail du spectacle. C'est-à-dire que moi, je suis atterré quand j'entends Deschamps dire « Vous n'avez qu'à changer de chaîne ». Bon, voilà. Bon, c'est comme si les spectateurs et les téléspectateurs ne faisaient pas vivre le foot. Hein, les supporters, tout ça, ils n'existent pas dans le foot. Et Dembélé qui remet une couche en disant « Nous, on s'en fout si les gens sont… » Mais ils jouent pour qui, en fait, l'équipe de France? Ils jouent pour eux, entre eux, à 15.
Mais en tant que supporter, pas, tu préfères qu'on gagne ou tu préfères qu'on perde? Tu préfères qu'on gagne en ayant un jeu affreux ou perdre en ayant un jeu
contre? C'est une vraie question philosophique.
C'est une vraie question. Il y a rien de méchant dans ce que je dis. C'est une vraie question.
Mais on ne peut pas gagner sans spectacle, sinon c'est la mort du foot. Donc, par exemple, David Douillet, on sait quelque chose. Au judo, quand vous attaquez pas, vous êtes pénalisé. On est d'accord?
Absolument.
Donc, c'est l'offensif, le jeu, le spectacle fait partie du jeu.
On n'y a pas cette règle.
Non, mais il a replacé le débat au niveau des téléspectateurs et des supporters. Vas-y, Moustapha. Oui.
Je suis régalé devant Autriche.
Turquie.
Ouais. C'était exceptionnel. Ouais. La Géorgie, comment elle joue, c'était exceptionnel. Bravo, Sagnol. Et on peut pas avec le standing de deux finalistes de la Coupe du Monde, deux fois finale de championnat d'Europe, tenir ce discours. C'est catastrophique. Mmh. Alors imaginez qu'on en demi-finale, on se fasse dominer par l'Espagne et qu'on gagne sur un corner et qu'en finale, on se fasse dominer et qu'on gagne au pénalty. Alors si tout le monde est heureux, super. Alors,
bravo Moustapha, pour ce point de vue.
On va jouer au billet et puis on les laisse.
On le partage ou on le partage pas, mais voilà. C'est un vrai point de vue. Et c'est un vrai.
Si on est champion d'Europe, tu ne seras pas dans la rue.
Il y aura moins de monde, je pense. Et l'analyse
de dire que défensivement, c'est costaud tout ça. Moi, je mettrai un petit bémol parce que j'ai vu des choses en tant que footballeur qui connaît un peu le football. J'ai vu des choses qui m'ont gêné. Et je crois qu'à un moment donné, si les Portugais sont plus précis, ça se passe.
Okay.
Et l'Espagne, avec William et Yamal, là, va falloir faire attention, même si on est une super défense. Voilà. Et ça, comme ça, je dis rien.
Moustapha, je partage ce que tu dis. C'est une vraie question philosophique. Marcelo Bielsa, qui donc passe pour le chantre du football, tu sais, du football offensif, quitte à perdre, quitte à ne pas gagner, sélectionneur de l'Uruguay, il a dit en conférence de presse, là, hier ou avant-hier, il a dit, ce jeu va mourir, en fait, si on arrête de le jouer de la façon dont il a permis son succès, en fait. Et ce jeu va mourir. Pour l'instant, il sert le business, on multiplie les matchs et ça favorise le business, mais un jour ou l'autre, sa croissance s'arrêtera si on arrête de jouer au foot. Et pour en terminer, du coup, avec Bielsa, Pep Guardiola, qui passe pour être un de ses disciples et qui, lui, prône un football, offensif, en tout cas, qui ne jouera jamais le football que prône Didier Deschamps, explique que le football, le plus beau football qu'il a vu, c'est le football développé par l'Argentine de Marcelo Bielsa à la Coupe du Monde 2002. Et trois matchs de poule, ils sont sortis des poules, mais il explique que, voilà, pour lui, c'est le plus beau football qu'il ait jamais vu.
Il n'y a pas que la victoire dans la vie, messieurs, dames. Voilà, on en finira là-dessus.
On retient la victoire et on retient plus le beau jeu.
La victoire te permet de changer ton destin le jour d'après. Bon. Donc tu peux jouer aussi bien que tu veux si t'es chez toi.
Mais en revanche, c'est normal que Dembélé copains n'en est rien à faire.
Je vais vous laisser un Kiri en disant on est mauvais, philo. On est mauvais, bien sûr.
Merci les philosophes du foot. Merci beaucoup les amis en tout cas d'être passés dans les grandes gueules du sport. Merci Simon, merci Sarah, merci Fred.
À très
bientôt. Merci David. Bon dimanche à vous. On se retrouvera la semaine prochaine, 9h30, vous le savez, en direct sur RMC tous les samedis et tous les dimanches. Les grandes gueules du sport. On saura à ce moment-là si les Bleus sont en finale. On risque d'en reparler du coup. Allez, tout de suite, restez avec nous parce que c'est l'heure des paris RMC. On va se projeter également sur ce France-Espagne. Restez avec nous, à tout de suite.